RTL Soir jusqu'à 20h.
On refait le monde, Marc-Olivier Faugier.
On refait le monde ce soir avec la conseillère en communication Françoise Degoua. Bonsoir Françoise.
Bonsoir.
L'écrivain Denis Tillinac. Bonsoir Denis.
Bonsoir Marco.
Le correspondant en France de l'agence de presse italienne ANSA. Bonsoir Paolo Lévy.
Buonasera.
Buonasera. Et Jean-Claude Dacier de Valeurs Actuelles. Bonsoir Jean-Claude.
Bonsoir.
Franchement, on est obligé de supporter ça.
Non mais attends,
c'est la République française ici, c'est pas la Vierge Marie là. Je comprends pas.
C'était en juin dernier, donc Jean-Luc Mélenchon découvrait le drapeau européen à l'Assemblée nationale. Les Insoumis ont donc déposé en commission un amendement pour le supprimer, sans succès. À la place, ils auraient aimé le drapeau de l'ONU. Alors, fallait-il supprimer le drapeau bleu aux 12 étoiles à l'Assemblée? Sur les réseaux sociaux, Benoît, après on va parler d'un sujet plus concernant quand même pour les auditeurs, les profs, très mal notés, la gestion des profs par la Cour des comptes. Mais d'abord, ce sujet-là un peu polémique pour commencer.
Ah ouais, il fait réagir, hein. C'est la guerre des étoiles en ligne pour ou contre les étoiles du drapeau européen. Les plus repris sont ceux qui suggèrent que les extrêmes se ressemblent. Louis Alliot approuve Mélenchon. FN et FI, populistes en phase, grince Dominique. Deux ex-députés européens ingrats qui ont royalement vécu de leurs indemnités pour faire reculer par leur absence l'influence de la France, tacle Xavier. C'est aussi l'argument du secrétaire d'État Benjamin Griveaux qui tweet « Ah, le drapeau européen dérangeait moins Mélenchon quand il figurait sur sa fiche de paye de député européen. » Marthe le dit plus crûment encore « C'est Roland de nationalisme pu. » Voilà. Mais Alain n'est pas d'accord. Comment vous dire, la constitution de 1958, la nôtre, ne reconnaît qu'un seul drapeau, celui de la République française. Oui, les râleurs estiment que jusqu'en 2012, toute l'Assemblée était populiste, car ce n'est qu'à cette date que le drapeau y est entré définitivement, rappelle Alexandre. Ok, vous avez gagné, on renonce au drapeau. Et les subventions européennes, on les refuse aussi, ironise Alec. Au petit jeu de la constitution, Pierre cite un autre passage, la République participe à l'Union européenne, il est donc logique que son drapeau y flotte. J'ajouterai à cela que nous sommes à la fois citoyens français et européens. Vous êtes tous tombés dans le coup de com' habituel de Mélenchon pour faire le buzz, soupire Garbeau. Claude, pour finir, veut mettre tout le monde d'accord. Le drapeau européen a tout autant sa place à l'Assemblée que Mélenchon et les Insoumis.
Denis Tillinac, vous approuvez ou pas cette proposition donc, des Insoumis de virer ce drapeau?
Oui.
Ah oui?
Oui, parce que l'Assemblée nationale, drapeau national, de même, je désapprouve la photo officielle du président Macron avec un drapeau français, un drapeau européen. Il a été élu par le peuple français, par les citoyens français, pour incarner la France et nul autre pays. Alors, vous me direz, nous appartenons aussi à l'Union européenne.
J'allais vous le dire, mais je ne pense pas être le seul à vous
mais
le
nous
dire.
Appartenons à à l'Organisation internationale de la francophonie. C'est une autre solidarité importante et il n'y a pas le drapeau de la francophonie. Il existe. Pourtant, nous appartenons aux Nations Unies, nous sommes même membres du Conseil de sécurité. Il n'y a pas non plus le drapeau des Nations Unies. Non, il faut à l'Assemblée nationale le drapeau national. Et donc, je suis insoumis sur ce sujet-là.
Qu'est-ce que vous avez tous avec ce drapeau européen? Vraiment. Mais avec toutes les questions qu'il y aurait à aborder en France ou en Europe, on s'attache vraiment à un drapeau européen. C'est vraiment une insulte à la mémoire de Simone Veil, qui probablement est en train de se retourner dans la tombe au Panthéon.
Et elle n'y est pas encore, elle va y aller, mais elle n'y est pas encore.
En tout cas, je vous rappelle que la France est un des pays fondateurs de l'Union européenne. Cette union qui a garanti 70 ans de paix parmi des peuples.
La paix était intervenue bien avant que les institutions soient mises en place.
En tout cas, depuis...
De Gaulle et Adenauer qui ont scellé la vraie réconciliation.
C'est pas je me dois de constater
c'est pas les bureaucrates de Bruxelles. De Gaulle et Adenauer.
Arrêtons déjà avec ces bureaucrates de Bruxelles, comme l'a dit très bien.
Arrêtons ça, je suis d'accord.
Comme l'a très bien dit Emmanuel Macron dans le discours à la Sorbonne, Bruxelles, c'est nous. Bruxelles, c'est vous, c'est vous, c'est vous.
Ah, voilà, un macroniste italien, il reste encore. Hein.
Peut-être vous n'y êtes jamais allé
non,
à Bruxelles.
Bien sûr, on ignore.
Et alors, vous ne savez pas, peut-être, ou peut-être vous faites semblant de ne pas savoir qu'à Bruxelles, il y a trois immeubles dans une même place, un à côté de l'autre. Un s'appelle le Parlement européen, un autre s'appelle la Commission européenne. Et au milieu de ces deux immeubles, il y a un troisième édifice, le Conseil de l'Union européenne, où siège la France depuis la nuit des temps et où la France peut dire oui ou non sur chaque virgule qu'on décide au niveau européen.
C'est
donc arrêtons de dire les bureaucrates de Bruxelles, parce qu'à la limite, les bureaucrates de Bruxelles, c'est nous. C'est nous tous les peuples européens. Enfin, quant à Jean-Luc Mélenchon, il a siégé 7 ans au Parlement européen. Il a reçu chaque mois des fiches de paye à l'effigie du drapeau de l'Union. Et il n'a pas fait des luttes de grands principes sur le fait que ce bulletin de salaire raffigurait le drapeau européen. Mm-hmm. Mais après, pourquoi l'ONU ? Il pourrait proposer l'Union bolivarienne à côté du drapeau français. Pourquoi ?
Ça c'est idiot. Oui, mais... Ça c'est la caricature de Mélenchon. C'est pas. Moi, je suis assez souvent. Je soutiens souvent Mélenchon parce que je pense que le procès qui lui est fait est complètement absurde sur le Venezuela. Surtout, c'est devenu le grand méchant loup. Donc c'est ridicule. Là par contre je comprends pas dans quoi il a été fourvoyé. Qu'est-ce que ça peut faire? Moi je pense qu'on fait partie d'un grand ensemble. Moi je fais partie des gens par exemple qui ont voté non au référendum en 2005. J'ai voté non, j'assume. Mais ce drapeau, moi j'ai voté non pas parce que j'aime pas l'Europe. J'ai voté non parce que j'aime l'Europe. Et ce drapeau à l'Assemblée nationale ne me gêne absolument pas. J'aime me sentir citoyenne française de la République avec tout ce qu'à la profondeur de la République, et puis citoyenne d'un grand ensemble qui s'appelle l'Europe que moi je veux changer. Donc c'est complètement crétin de la part de Mélenchon d'être parti dans cette polémique stupide.
On
ne
peut pas être citoyen de deux entités.
Si, avant je crois.
Français, on est mort. Et notre pays, par le choix de nos dirigeants, non contresigné par le peuple.
Moi, par exemple, je suis né à Rome, je me sens autant romain qu'italien qu'européen. Je ne vois pas où est la contradiction.
Mais moi, j'aime pas
l'Italie. Parce que l'Italie ne s'est pas construite historiquement comme la France.
Je ne vois pas.
Il faut respecter la mémoire des peuples et de leur histoire. On ne s'est pas construit par la guerre.
Une fois,
l'unité italienne, elle remonte à 1870. Hein,
alors, vous êtes comme les radios. Une fois, les radios, elles étaient en mono. Donc, on écoutait seulement un côté. Maintenant, elles sont devenues stéréo. Et vous vous obstinez à rester des mono. Dommage.
Pas du tout. Ne confondez pas.
Parce que on peut faire un débat entier. Je connais très bien l'Italie. Donc, ça n'a rien à voir.
On est sur le plan de la culture, de la mémoire, de l'histoire.
À 32% non. Avec Berlusconi, bon, on n'explique pas que l'Italie est en stéréo et que la France est en mono, mon ami. Et
puis, 30%, voilà. Oui, il y a 10 ans, oui.
Voilà, vous avez un petit problème
nucléose, peut-être.
Ouais, voilà.
Jean-Claude Dacier. Je ne pensais pas que cette affaire de drapeau et cet amendement Mélenchon, qui a eu un succès formidable, mais je crois qu'il a recueilli 2 voix, allait nous occuper aussi longtemps.
Je crois que c'était l'objet de l'amendement, je crois.
Honnêtement, je pensais pas qu'il y ait lieu à un débat aussi vif. Moi, je suis pas un Européen forcené. Je reconnais les faiblesses, je reconnais les insuffisances, et je suis partisan de l'Europe gaullienne, c'est-à-dire de l'Europe des nations. Bon, néanmoins, Denis, ta position me choque un peu parce que l'Europe, comme disait François Mitterrand, que j'avais cité, c'est une de mes idoles. Alors, chacun le sait.
Bah on le sait. Ouais, vous avez sa photo sur votre lit.
Que disait-il ? L'Europe, c'est la paix. Ben oui, quand même, je ne suis pas un Européen forcené, néanmoins, plus ça va et plus je me dis que si on fait attention à faire les réformes qu'il faut, je crois que l'Europe est indispensable parce que seul on ne s'en sortira pas. Je suis un peu inquiet de la position du président de la République qui a l'air d'adhérer à une Europe fédérale qui ne me paraît pas opérationnelle. Mais néanmoins, entre ça et cette position de Mélenchon, franchement, il n'y a pas autre chose à dire et à faire que de dire on va
virer. Allez,
Denis,
pour conclure, on va parler de
ridicule, Mélenchon. Mais les extrêmes se rejoignent. Au fond, il n'en veut pas de l'Europe, comme Marine Le Pen, je suis navré.
Moi, je ne suis pas extrémiste du tout, je ne suis pas contre l'Europe. Je suis contre ces institutions-là. Je voulais simplement dire, il y a des soldats français qui risquent leur peau sur différents théâtres d'opérations internationaux, qui la perdent des fois, qui vibrent en voyant flotter au vent un drapeau titulaire, rien que par respect pour eux, on ne doit pas tout confondre. Donc enlevons ce drapeau à l'Assemblée.
Les deux sont compatibles et peuvent coexister
On n'a pas un cœur. Le cœur humain ne peut pas étreindre le monde entier. Non.
On est français. Il y a le cœur et il y a la raison. L'Europe, c'est la paix, disait François Mitterrand. Et pour une fois, il y a raison.
C'est la guerre.
Oui, mais un drapeau, c'est l'affectivité.
Là, je ne suis pas d'accord avec toi, Jean-Claude, parce qu'on parle du nationalisme. Là, je te parle du patriotisme. Ce n'est pas des choses... Moi, je comprends ce que dit Denis. Je ne vais pas jusqu'à cette absurdité de Jean-Luc. Je ne comprends pas dans quel guépier il est allé se fourrer tout seul.
Quel débat, on s'en sort pas.
Non, mais parce que c'est profond, parce que la France, elle est coupée en deux.
J'ai peur que les souverainistes, quand même, soient en train de refaire le terrain, et ça m'inquiète un poil.
Allez, dans un autre sujet peut-être plus concernant, celui-là était polémique, intéressant, concernant maintenant la gestion des profs épinglés par la Cour des comptes.
RTL Soir jusqu'à 20h.
On refait le monde avec Marc-Olivier Fogiel.
Et avec Denis Tillinac, Françoise Degois, Paolo Lévy et Jean-Claude Dacier. Les mauvaises notes de la gestion des profs. La Cour des comptes déplore un système rigide, coûteux, peu efficace. Pour améliorer les choses, les magistrats proposent notamment d'intégrer des remplacements de collèges absents, de collègues absents, pardon, dans des obligations de service. Donc, pour être clair, donc obliger certains profs à en remplacer d'autres. Tout à l'heure, vous avez entendu sur RTL Philippe Tournier, le secrétaire général du principal syndicat et chef d'établissement. Ce constat n'est pas nouveau. Il faut une véritable gestion de ressources humaines dans l'éducation. Alors, faut-il secouer le mammouth ou pas sur les réseaux sociaux ? Benoît.
Je vais vous surprendre, Marco. On ne réagit pas pareil selon qu'on est prof ou pas. Nadine lance. Bah, il serait temps. Hein, c'était évident pour tout le monde, sauf pour nos institutions. Philippe a déjà la solution. Essayez 3 jours de carence comme dans le privé. Vous verrez, ça diminuera l'absentéisme. Entre les vacances et les grèves, c'est sûr qu'il serait utile d'optimiser leur temps de travail, persif Gauthier. Le syndicat SNEF-FSU a trouvé dans ce rapport les poncifs habituels de la pensée libérale sur le travail des enseignants, du beau ironise, soulignant les problèmes de recrutement dans l'éducation nationale. La Cour des comptes a la solution: rendre le métier encore moins attractif. Clarence Aussis désole, toujours les mêmes âneries répétées ad nauseam. Il y a 3 ans, il voulait supprimer le corps des agrégés, trop cher, disait-il. Là, ils veulent prendre en compte les résultats des élèves dans notre évaluation. On fait pareil aux médecins, payés selon l'état de santé de leurs patients, demande l'UNSA. Et ils nous parlent de salaires revalorisés, mais on n'a rien touché, s'énerve Ocho. Seulement des tâches supplémentaires, sans réduction du temps de travail. Cessons de stigmatiser les profs, le ministère nous fait faire tout. Toujours plus d'heures, toujours plus de kilomètres avec des élèves moins triés. Bouc émissaire, lance Blanc, Sophie de conclure. Et puis c'est rigolo de communiquer là-dessus pile avant la grève de mardi prochain. Comme ça, on va lire. La Cour des comptes a pourtant dit que les profs ne bossent pas assez.
Vous avez entendu Didier Mégot hein, ce midi sur RTL avec Stéphane Carpentier et Christelle Rebière. Des profs absents, non remplaçants, des débutants face à des classes difficiles, un système qui coûte trop cher, des résultats insuffisant, c'est quand même une réalité, non, Françoise Degois ?
Écoutez, moi, j'aime beaucoup Didier Migaud et j'aime beaucoup l'objectivité supposée du vénérable président de la Cour des comptes.
Il n'est pas tout seul, hein, à la Cour des comptes, je rappelle.
Il n'est pas tout seul, mais enfin, c'est toujours lui qui se charge de présenter d'annoncer. Moi, je vois tout à fait dans ce rapport ce qui est un merveilleux terrain de préparation pour que le ministre de l'Éducation nationale, dans quelques mois, nous explique qu'on ne pourra pas embaucher de nouveaux profs. Qu'est-ce qu'il dit ce rapport ? On a embauché 54 000 professeurs. Qui est Jean-Michel Blanquer ? Jean-Michel Blanquer, c'est l'ancien directeur de l'enseignement scolaire qui a été le bras armé de la politique de Nicolas Sarkozy, qui avait supprimé 80 000 enseignants et surtout la formation des professeurs. Le même Jean-Michel Blanquer qui va nous expliquer, évidemment, parce qu'il y a une continuité dans sa pensée, dans son idéologie, avec la bénédiction d'Emmanuel Macron, que maintenant, il faut travailler plus, qu'on n'embauchera pas de professeurs supplémentaires, sauf qu'il va y avoir un petit problème. Didier Migaud peut dire ce qu'il veut, il va juste y avoir un problème. Pour dédoubler les classes de CP, aujourd'hui, Blanquer a proposé un budget sans augmentation de professeurs. J'attends de voir dans quelques mois, à la prochaine rentrée scolaire, comment il va arriver à faire ce miracle de ne pas recruter de professeurs supplémentaires, de dédoubler les classes de CP et de gérer le problème des collèges et des lycées où vous explosez à 40-45. Tout ça, c'est du foutage de figure, je le dis. Et y compris le rapport de la Cour des comptes.
Et vous, Jean-Claude, parce que vous avez quand même entendu le syndicat des chefs d'établissement qui dit que l'aberration principale, c'est que les profs, une fois qu'ils rentrent et qui sortent, ils sont traités tout le temps à la même. Il faut aménager, on n'a pas le même appétit pour enseigner à un moment ou à un autre, et il faut finalement aménager, que ce ne soit pas rectiligne une carrière de prof, et que la clé est là.
Oui, sûrement. Moi, encore une fois, bon, je constate que le mammouth est toujours en pleine forme, et que ça va, hélas, encore durer quelques années. J'ai toujours du mal avec l'éducation nationale, parce qu'il y a là-dedans, quand même, dans cette administration, à qui, à juste raison, on fait pas mal de reproches, il y a quand même beaucoup de gens formidables qui essaient de transmettre le savoir. Mais néanmoins, on le sait bien, que c'est les syndicats qui commandent, rue de Grenelle. Je parle même pas des pédagogistes et de leurs initiatives ridicules. Les syndicats, c'est toujours plus. C'est pas l'enfant qui est au centre, c'est les profs. Alors, avec les aberrations que l'on constate, il y a au moins quelque chose de bien que fait la Cour des comptes. On peut lui faire tous les reproches qu'on voudra. Heureusement, tous les 3, 4 ou 5 ans, elle mesure les choses. Et elle mesure quoi, l'éducation nationale ? Ben, c'est que ça ne s'améliore pas. Les résultats des études qui soient faites par PISA ou autres prouvent que notre système fonctionne pas très bien. J'entendais ce matin une syndicaliste qui expliquait que comment les remplacements pour les absences courtes de 15 jours. Mais non, il vaut mieux attendre le retour du professeur titulaire plutôt que de risquer de traumatiser les enfants en leur amenant un professeur nouveau. Mais c'est pas une caricature.
Écoutez,
elle le disait,
les profs, ils sont débordés de boulot, ils gagnent des salaires de misère.
Mais
ils ne gagnent pas d'argent.
Parce qu'il en faut toujours plus. Mais évidemment qu'il en faut un peu moins, travailler un peu plus et mieux payer. Je suis d'accord.
La bande de feignasses générales, on connaît vos caricatures.
Mais c'est vous qui dites ça. Mais non, parce que c'est de la caricature.
Restez, vous savez combien gagne
un professeur. Restez sur la Cour des comptes. Eux font un travail sérieux.
Ils font tellement un travail sérieux.
Ils font un travail sérieux.
Arrêtez avec votre mauvaise foi. Vous savez très bien que Didier Migaud fait de la politique comme le président du Conseil constitutionnel.
Mais bien sûr, on peut se raconter. Tout va bien à l'éducation nationale. Et n'en parlons plus.
Je n'ai pas dit ça. Je dis simplement.
C'est n'importe quoi. L'exode vers le privé continue parce que les parents en ont marre du foutoir de l'éducation nationale. Mais l'exode vers le privé continue.
Ah, bah ça, il y avait des chiffrières de l'éducation catholique qui augmentent.
Je ne dis pas l'évidence. Tant pis pour vous. Arrêtez de tout mettre toujours sur le dos des professeurs.
Mais je ne les mets pas sur le dos, je leur rends hommage. C'est les syndicats qui asphyxient l'éducation nationale et qui en font le monstre administratif. Heureusement, on a Blanquer. J'espère qu'il va rester longtemps. Il a 10 ans de boulot devant lui.
Paolo. Plus calme, peut-être, Paolo. Impressionné, Paolo est impressionné.
Non, ça ne va pas bien.
En Italie, il y a les chiffres d'Eurostat qui viennent de sortir. Nous avons la classe d'enseignants la plus âgée d'Europe.
Et pas que ça, Paolo. Vous avez la classe d'enseignants qui gagne probablement le moins d'argent.
Les professeurs en Italie
sont payés de façon honteuse.
Absolument. Et non, à mon avis, ce document de la Cour des comptes est certainement une sonnette d'alarme très, très bénéfique. On se demande pourquoi, pendant le quinquennat de François Hollande, on a abeuvré, en quelque sorte. On a renforcé la classe enseignante sans obtenir demander de contrepartie. Et aujourd'hui, effectivement, on se trouve face à une situation où ces réformes s'imposent à tout prix. Je note peut-être la plus importante, parce que j'ai un copain qui est enseignant depuis des années maintenant, et il me raconte que son premier poste fut dans une école très très difficile, où il est arrivé complètement dépourvu. Apparemment, ses étudiants avaient quasiment son âge et ils l'ont bouffé. Ouais. Il a été bouffé.
Qui a supprimé la formation des professeurs ? Jean-Michel Blanquer.
À l'usine à gauchiste, là, oui, non, ça suffit.
Qui a supprimé la formation des professeurs, Nicolas Sarkozy, avec Jean-Michel Blanquer, qui était le directeur de l'enseignement scolaire.
Oui, mais en plus de ça, il faut faire en sorte que dans les ZEP, dans les lycées difficiles, aillent des professeurs qui aient une expérience.
Alors là, vous avez vu la proposition. La proposition, ils vont être, pendant 2 ou 3 ans, c'est ce que propose la Cour des comptes, ils seront payés pour ça, et ils reviendront après dans leur établissement d'origine. C'est la proposition de... Non, le retour dans l'établissement d'origine, ça n'a pas été fait.
Non, non. Le paiement supplémentaire des professeurs ZEP et en REP, c'est déjà fait par Najat Vallaud-Belkacem.
Très bien, mais là c'est le retour après 3 ans.
Ça ne se fera pas.
C'est nouveau. Le retour après 3 ans, dans leur établissement d'origine, ça n'a pas été fait.
Je pensais que vous parliez de l'augmentation de salaire.
C'est ce qu'on propose la Cour des comptes. Denis, je vous donne la parole après la pub.
On refait le monde dans RTL Soir. Avec Marc-Olivier Faugé.
Et avec Jean-Claude Dacier, Paolo Lévy, Françoise Degoy et vous, Denis Tillinac, donc sur ce rapport de la Cour des comptes qui épingle l'éducation nationale. Un jeu de rôle, d'une certaine manière, ce que dit Françoise Degoy, ou en la préparation éventuellement d'une grande purge, ce que dit Françoise.
Bon, il est sûr que ce rapport rend service au ministre de l'Éducation nationale, si tant est qu'il ait envie de faire des réformes. J'allais dire, tant mieux. Bon, on ne peut pas nier qu'il y ait beaucoup de cours qui n'ont pas lieu parce que les gosses profs ne sont pas remplacés parce qu'ils sont malades. Et ils ne sont pas remplacés ou parce qu'ils sont en formation.
Alors on dit on parle d'ailleurs, c'est dans l'autre sens que ça se passe. C'est d'abord
en formation
la formation et ensuite l'arrêt de travail. C'est pas totalement la même chose.
Il n'est pas niable non plus.
Le résultat, c'est qu'il n'y a pas de problème dans les classes.
C'est bien de le rappeler.
Il n'est pas niable non plus que c'est les primo-arrivants, les profs de 25 ou 30 ans qu'on balance dans les zones les plus difficiles. Et souvent, ils se tirent. Il n'est pas niable non plus que si les Rome était changé, je veux dire, il n'y aurait plus un élève dans l'éducation nationale, ils seraient tous dans le privé. Parce que, à tort et à raison, on a l'impression que les gosses sont plus tenus, que les profs sont moins souvent malades, je ne sais pas pourquoi. Donc oui, il y a un malaise, ça n'enlève rien au mérite de la plupart des profs, mais c'est pas catastrophique non plus, c'est la petite moyenne dans les enquêtes PISA, mais au regard de ce monstre titre bureaucratique, 1 100 000, je crois, salariés. C'est
la, 850 000.
Mais la question qui se pose un peu ce soir, parce que finalement, le constat.
Dont 100 à 150 000 qui n'enseignent jamais.
Jamais. Il y en a qui sont perdus, absolument.
Mais Denis, la question qui se pose ce soir, puisque finalement.
Ils forment des formateurs.
Si vous voulez bien. La question qui se pose ce soir, puisque finalement, ce constat. Claude Allègre voulait dégraisser le mammouth, oui. etc. Est-ce que vous croyez, ce soir que les choses peuvent changer avec Emmanuel Macron? C'est un peu ça la question, parce que finalement
c'est un peu comme l'Union européenne, qu'on peut changer une machinerie aussi lourde.
Faut la casser, faut décentraliser.
Faut donner du pouvoir aux régions. Je souhaite bon courage au ministre.
Mais il en a, semble-t-il, et il prend le problème plutôt, semble-t-il, par le bon bout.
Non, je pense qu'on ne changera pas. Tous les ministres de l'Éducation nationale. Ne sont jamais là pour réformer. On accuse toujours les ministres de l'Éducation nationale.
Ils ne décident pas des programmes.
Ils ne réforment pas l'Éducation nationale. Dès que ça commence, ça monte très vite et ça fait immédiatement des vagues. Chaque fois qu'on touche à l'éducation, la France est un pays de manifestation. Donc, je crois que de mon point de vue, ça peut changer de l'intérieur, mais il faut pas. Ça ne peut changer qu'à partir du moment où on cesse cette stigmatisation permanente personnels de l'éducation.
Il s'agit aussi de les associer, quand même, avec un peu de bonne volonté de la part de leurs syndicats, à se dire que tout n'est pas parfait, il serait peut-être temps de commencer à regarder les choses.
Non, mais peut-être qu'on va avoir peut-être un ministre qui, pour une fois, va aller au bout de ce qu'il pense.
Blanquer, il va aller au bout de ce qu'il croit.
Laissez-le faire.
Il est dans la continuité, c'est une politique classique. On va mettre moins de moyens de professeurs et on va leur demander plus de travail. Ça s'appelle une vraie politique de droite. Classique libérale, vous verrez comment
laissons,
ça finira.
Laissons le faire avant de commenter ce qu'il n'a pas encore fait. C'est ta réalité fantasmée.
C'est pas encore ce qu'il a décidé.
Paolo ?
Écoutez, on peut dire il n'y arrivera pas, on ne sait pas. Une chose est sûre, il y a là une occasion historique, parce qu'avec 310 députés à l'Assemblée nationale...
Il y a eu des majorités plus grandes.
Oui, mais
il y a
ça
425
fait...
députés avec oui,
on a un nouveau président du Nouveau Monde, je vous rappelle, Françoise.
C'est une opportunité historique. Il y a 5 ans...
Où sont les conservateurs, ma chère Françoise ? Où sont les conservateurs ? On les voit, là.
Mais pourquoi vous êtes si précis.
Mais il y a eu Valéry Giscard d'Estaing en 1974, c'était Emmanuel Macron, mais c'est pareil.
Non, mais c'est très bien de regarder tout à travers la loupe de l'histoire. Mais il faut, en tout cas, prendre acte du fait qu'aujourd'hui, il y a une Assemblée nationale avec une majorité écrasante, un ministre et un président qui veulent mener des réformes à bien dans le secteur défaillant de l'école, et s'ils ne vont pas le faire avec 5 ans
une Assemblée nouvelle, différente des précédentes, avec des députés qui ne ressemblent pas au précédent. On va dire, dans les profils.
Et s'il y a épreuve de force, c'est bien cette fois, Françoise de Gouin, s'il y a épreuve de force, et bien cette fois, il faudra la gagner.
Oui,
parce que sinon, ce pays est foutu. Sinon, voilà comment je vois les choses.
Il y a un alignement désastre inédit.
Pourquoi ? C'est quoi l'alignement ?
Non, mais les conditions politiques. Tout est là pour faire finalement cette
réforme. Quelles conditions politiques ? Donnez-moi.
La volonté politique.
Macron a été élu avec 20%.
La volonté politique de sortir ce pays de l'ornière.
Et gardons la situation telle qu'elle est. Voilà où sont les conservateurs, Madame la Marquise. Tout va très bien, Madame la Marquise. Voilà où est le conservatisme.
Je suis pour la justice sociale et surtout pas pour ce macronisme énamouré qui ne repose sur rien.
Mais on le connaît pas, il doit encore agir, le macronisme qui ne repose sur rien.
Allez, dans un instant, on va parler, si vous voulez bien, des Républicains qui font le ménage. On va en parler rapidement.
On refait le monde dans RTL Soir.
Marc-Olivier Fauché.
Avec Paolo Lévy, Jean-Claude Dacier, Françoise Degois, Denis Tillinac à 19h52 sur RTL. La chasse aux sorcières chez les Républicains. Édouard Philippe, Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu, Franck Riester et Thierry Solaire ont donc 8 jours pour justifier leur soutien à Emmanuel Macron. Sinon, ce sera la porte. Donc, écoutez ce matin la réponse de Thierry Solaire sur RTL.
Ce qui est en train de se passer est assez grotesque. On a l'impression que c'est le Trocadéro 2. C'est le rassemblement des mêmes qui étaient à la tribune aux côtés de François Fillon, qui se radicalise tous les jours un peu plus. Moi, je suis un homme de droite. Gérald Darmanin, c'est un homme de droite. Le Premier ministre, il l'a rappelé lui-même le jour de sa nomination dans la cour de Matignon, c'est un homme de droite. Qu'est-ce qu'il en pense, Nicolas Sarkozy, de l'éviction de Gérald Darmanin ? Qu'est-ce qu'il en pense, Alain Juppé, de l'éviction d'Édouard Philippe, qui était son bras droit ?
Allez, on débrief rapidement. Purge ou exclusion logique, selon vous, Denis Tillinac ?
Oui, ça pouvait pas coller. Il y a deux droites qui n'ont pas les mêmes référents, qui n'ont pas les mêmes valeurs, À tous égards, ça s'appelait le RPR et l'UDF du temps de Chirac et de Giscard, ça s'aimait pas, il y avait de bons reports au second tour et on pouvait gouverner ensemble, que Soler, Rister et autres foutent le camp, et qu'avec l'UDI ou indépendamment de l'UDI qui bâtissent un macronisme de centre-droit, c'est pas illogique que des gens de la droite libérale...
Edouard Philippe, avec...
La droite libérale, ce qui n'est pas la droite gaulliste. Quand Soler se prétend gaulliste, il fait rigoler tout le monde.
Edouard Philippe, avec...
Il y a longtemps qu'il fait rigoler tout le monde, celui-là, qui foutent le camp, bon débarras, qu'un parti gaulliste, populaire, plutôt souverainiste, en tout cas cocardier, et un peu attaché aux valeurs et aux traditions, se reconstitue, et puis qu'un parti libéral, de centre-droit, dont les leaders peuvent très bien être Édouard Philippe ou Valérie Pécresse, qui sont des gens de grande valeur que je respecte, de toute façon, le clivage se reconstituera tôt ou tard.
Donc le clivage droite-gauche.
Oui, mais à droite, ils pouvaient plus vivre ensemble, c'était plus la peine, ça n'a pas de sens.
Bah, c'est-à-dire que... Non, c'est vrai que c'est un épisode, un de plus, un peu ridicule. Là. Franchement, on exclut, ça tombe sur toutes les dépêches, Darmanin exclu.
Il n'est plus exclu.
À la fin de la réunion, il n'est plus exclu. C'est un peu pénible.
Les Républicains, c'est un parti d'opposition. À partir du moment où ils sont dans la majorité, on les fout dehors, ça me paraît élémentaire.
Denis, le problème quand même des Républicains, c'est que la politique que Macron suit est d'inspiration, je dirais pas républicaine, mais largement libérale.
Oui,
plutôt à droite qu'à gauche.
La droite libérale, mais la droite, ce n'est pas que le libéralisme.
Oui,
il y a tout le reste.
Néanmoins, l'ISF, la droite l'aurait fait, elle voulait la faire.
Non,
les lois travail, la droite voulait la faire.
Macron fait en mieux que la droite
fiscalité
pas,
sur les
n'a pas osé faire.
Les voilà, il est en train de faire la politique qu'aucun homme de droite n'a
donc,
été capable ou n'a voulu
et donc,
faire.
Et ces ministres doivent sortir de chez les Républicains.
Eh bien, écoutez... Je pense que la logique voudrait néanmoins que si l'orientation que donne au Républicain M. Wauquiez, s'il doit être élu, est très à droite, là aussi on ouvrira le débat. Je pense qu'effectivement, avec les déclarations en plus de Thierry Soler, franchement qu'il n'en rate pas une, ça fait beaucoup. Darmanin aussi, ça fait beaucoup. Je regrette pour Édouard Philippe qui est un type bien.
Oui, voilà. Ne confondons pas.
Mais la droite est dans une situation inextricable et n'aura même pas la chance de la gauche de se refaire s'il y a un échec Macron. C'est la gauche qui se refera sur un échec Macron. La droite, ce sera difficile pour elle d'expliquer que Macron a échoué, mais qu'elle propose de faire encore plus de libéralisme.
Françoise ?
Normal d'exclure. C'est normal. Moi, je crois pas du tout à la fin des partis. Je pense qu'il est logique. Ils ont suivi l'adversaire de François Fillon. Il est logique. Je pense que les partis ont besoin. C'est comme les rosiers. Il faut les tailler pour qu'ils repartent.
La social-démocratie renaîtra aussi de ses cendres un jour. Et
Paolo.
La gauche radicale aussi, d'ailleurs, Mélenchon s'en occupe pas si mal.
Paolo, pour conclure.
La droite aujourd'hui est face à un casse-tête inextricable. Difficile. C'est-à-dire, on l'a vu très bien avec la loi antiterrorisme qui a été votée hier à l'Assemblée nationale. Et pour la première fois, ils ont voté contre un truc rien qu'il y a 6 mois, ils auraient fait tout pour l'avoir. Et donc, c'est aujourd'hui, il y a une posture politicienne. Et c'est sûr qu'il va devoir y avoir une recomposition.
Ils voteront contre la PMA. Il y aura des affrontements sociétaux, c'est sûr. La PMA, ils vont se refaire un peu. Mais sur la feuille de paye, sur la vie dans les entreprises, sur l'investissement, sur l'économie, ils sont on ne peut plus mal. Or, c'est quand même le fonds de commerce de la droite.
Allez, merci à tous les quatre. Paul Olévy, Denis Quilinac, Françoise Degoy et Jean-Claude Dacier. Dans un instant, le flash de 20h. Et ensuite, on retrouvera Jacques Pradel. À tout de suite sur RTL.